Derrière la magie du sport de haut niveau se cache une triste réalité d'athlètes malmenés et abusés. Et pour que ça cesse, il faut en parler.
Avec Jean-Luc Brassard, l'envers de la médaille. Mardi, 20h, sur la chaîne Témoin. Débrouillez dès maintenant.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Gilles Proulx.
Bonjour, mon cher Richard.
Richard Martineau.
Petit lapin.
La rencontre.
Point à l'heure des cadeaux.
Je ne suis pas là à vous flatter dans le sens du poil.
Point à la ligne.
C'est très important ce qu'on dit.
La rencontre Proulx-Martineau.
Alors, Gilles, je parlais tantôt à Jean-François Lisée et Thomas Mulcair du débat hier des trois candidats à la mairie de Montréal. Et les deux, et Jean-François et Thomas, m'ont dit que Denis Coderre avait perdu des plumes. Qu'est-ce que vous en pensez?
Je pense effectivement que Coderre, bien qu'il avait une belle prestance, mais il sent le vieux jeu. Il ne sent pas le neuf. C'est pas du bois neuf. Il a tellement joué sur le fait, le nouveau Coderre. Et je pense que la transmission de son image n'a pas montré quelque chose de très changeant dans lui. C'est vrai qu'il y a eu affaire à se faire couper, puis lui-même a coupé. Pierre Bruno a peut-être manqué de... Pierre Bruno, c'est un maudit bon animateur, bon livreur. Et il a manqué un peu de fermeté. Il faudra qu'il soit un petit peu plus baveux dans ce genre de débat, parce qu'on est dans la basse cour, dans l'arène romaine, si on veut, entre le gladiateur et le lion. Alors, oui, je pense qu'ils ont raison, tous les deux, de dire que Coderre a peut-être perdu quelques plumes, mais la bataille n'est pas terminée pour lui. On me laisse aurait l'étoffe d'être le meilleur s'il le voulait, s'il était plus articulé, moins fanatique. On a vu son arrière-pensée qui est hypocrite encore une fois. Et les premières minutes, je le trouvais sympathique avec l'idée des comptes, t'attaquer à tout ça. Ça plaît aux téléspectateurs, à l'automobiliste. Mais on voit l'hypocrisie encore une fois quand il est allé parler de la ville-État. Hey, faire de Montréal une ville-État, ça passe ça comme du beurre dans poêle, mais il faut voir Singapour derrière tout ça. Une ville-État, ça veut dire un référendum pour séparer Montréal de Québec. Et puis là, les petits Anglais malheureux, encore une fois, on a vu que tout cela n'était que de l'hypocrisie pour les petits Anglais qui trempent dans une américanisation écrasante à Montréal. Et on lui doit quand même quelque chose à ce gars-là, c'est qu'il a ouvert la porte pour obliger Valérie, qui était peut-être un peu nerveuse, elle est sympathique en tout cas en termes d'image diffusée. Bon, on peut être d'accord ou pas, ses idées, son programme, ses indécisions, mais il a ouvert la porte pour Valérie et Coderre, qui ont été très fermes quant à l'utilisation, le rayonnement du français à Montréal. Ça, c'est nouveau dans la bouche des deux. Ne lui oublions pas que Coderre, quand il était maire, avait parlé d'une ville balingue, lui, avec. Et puis, il parlait de ce grand sanctuaire des réfugiés. Tout comme madame qui a admis qu'elle a fait une erreur avec son discours en anglais. Bon, elle a dit, je me suis excusé. Elle a fait comme Legault. Je me suis retouché les manches. Mais Coderre avait pas l'air à l'écouter là-dessus.
Mais Holness, là, il disait un peu n'importe quoi. Quand il dit, on est tanné des cônes oranges, je vais enlever les cônes oranges. OK, c'est bien beau, là. Tout le monde est contre les cônes oranges, mais reste que les rues, il faut les refaire à Montréal. Elles sont tout croches, là. C'est n'importe quoi. Il faut refaire, il y a des travaux. Fait que là, Valérie Plante lui demandait, oui, mais concrètement, vous allez faire comment? Puis il disait rien. Il avait rien à dire.
Là. Exactement. L'idée des cônes oranges, on est tous écœurés comme jamais. Tu prends l'autoroute Bonaventure, ici, de Verdun au centre ville. Ça fait deux ans, je n'exagère pas, qu'il y a 1000 cônes, il n'y a pas un maudit travailleur. Alors, comment se fait-il que personne ne demande une question peut-on avoir une réponse? Il y a 1 millier de cônes, je te mens pas, mon cher Charles, pas que tu l'as emprunté, ça fait 2 ans que ça dure. Alors, au début, c'est sûr que cette approche-là du candidat a plu, mais évidemment, il n'a pas été capable d'élaborer très loin là, quant au trou, puis au chevalet à enlever, puis des tours à faire, puis à pas faire.
Puis Valérie Plante, quand elle le disait, Denis Coderre, à 2 reprises, vous auriez pu voter pour faire appliquer la loi 101 aux entreprises de juridiction fédérale. Vous étiez même pas là la journée du vote.
Ça, ouais, c'était... ça, c'est intéressant. C'est une belle flèche, effectivement, que Coderre a reçue, où on n'a pas fait grand bruit. On s'est pas attardé. J'ai écouté tous les débats par la suite hier soir. Et personne n'a relevé cette espèce de flèche empoisonnée qui était habile de la part de Valérie. Hein.
Vous voulez revenir, entre autres, sur le texte de Mario Dumont d'aujourd'hui, les gens qui choisissent de travailler moins. Mario dit, ben ça là, OK, c'est un choix personnel, mais qui a des conséquences pour toute la société au grand complet.
Voilà, voilà. On a beau dire qu'il y a des baby boomers, puis là, ben c'est pour ça qu'il y a tant de demandes d'emploi. Mais juste rajouter une parenthèse, tout ça pour conclure qu'hier soir, il va y avoir un taux de participation de 35% pour l'élection, là. Puis aucune maudite question sur le plus gros conseil municipal au monde.
Ben oui.
Mais je reviens à Mario, t'as bien raison. Mario se demande, en tout cas, où sont passés ces milliers de travailleurs qui étaient là en poste il y a 1 an et demi, avant la pandémie. C'est vrai qu'il y en a beaucoup là-dedans qui ont pris leur retraite. Mais moi, je pense que ça s'explique par le fait que le syndicalisme a profité de la faiblesse ou de la position vulnérable du gouvernement. Ça s'explique par le fait qu'on se bat pour des semaines de travail de 3 ou 4 jours, mais payez-nous pour 5. On l'a, et la productivité s'en ressent. Le corps de police de Montréal est un exemple, des vaches sacrées. On leur touche pas. Comment est-ce qu'un syndicat a pu négocier ça et qu'une autorité ait pu signer un contrat de la sorte? Je travaille 3 jours, tu me payes 4 jours de congé. Je travaille 4 jours, là, j'ai 3 jours de congé. Cet maudit horaire de 3 ou 4, là, c'est une aberration épouvantable d'improductivité. Ça, c'est la police. Il y a aussi l'école bleue, faut pas oublier, eux autres 6 semaines de 4 jours. Payez-nous pour 5. Les médecins à 200 jours en moyenne par année, avec 500 000 piastres de plus par année. Les codes bleus, je les ai nommés. Les professeurs, oh, maintenant, c'est l'alliance famille emploi. C'est de la foutaise. Ça s'appelle tout cela une culture de l'individualisme. Et c'est oublier ce que Legault leur a lancé il y a quelques semaines en pleine figure en citant John Kennedy. Ne vous demandez pas ce que l'État peut faire pour vous, mais demandez-vous donc ce que vous pouvez faire pour l'État. Ce genre de message ne passe pas dans des oreilles de syndicalistes et d'égoïstes.
Mario, dans sa chronique, dit « Je ne juge pas les jeunes qui veulent moins travailler. Je comprends, ils ont vu leurs parents travailler comme des fous, pas être présents pour leur famille, laisser leur santé, tout ça. Ils veulent pas refaire la même chose, eux autres. Ils veulent pas mettre toutes les œufs dans le même panier puis travailler comme des fous. Je peux comprendre ça, mais reste qu'il va avoir des impacts là, de ça. Si vous voulez pas travailler le soir, si vous voulez pas travailler les week-ends et tout ça, ouais, il va avoir des conséquences. »
Mario a beau spécifier nos parents, c'est bien vrai. Mais c'était la semaine de 50 heures. On était rendu à la semaine de 40, puis la semaine de 37,5 au gouvernement, puis 33. Puis c'est toujours te battre pour en avoir plus et t'en donner moins en bout de ligne. Puis c'est bien beau penser à la famille, tout ça. Moi, je pense qu'il faut penser beaucoup plus aux grands déplacements pour des longs week-ends par-ci et par-là.
Jean Charest qui est tout content de faire la business avec les Chinois.
C'est incroyable de voir comment un avocat peut défendre un bandit un jour et défendre le surlendemain la victime du bandit. C'est ça un avocat. Alors Jean Charest, ex-premier ministre, qui passera pas dans l'histoire du Québec avec un grand H, un H majuscule. Bon, défend maintenant la Chine, la plus grande manufacturière de produits à bas prix au monde dont nous jouissons. C'est vrai. Mais au prix de combien de fermetures? La Chine, au-delà de l'affaire des deux Michaels, faut retenir aussi que c'est celle qui fabrique un arsenal militaire comme on n'en a jamais vu. C'est la Chine aussi qui annexera un jour Hong Kong et Taïwan, parce que ça fait partie de la grande famille chinoise. C'est la Chine aussi qui protège la Corée du Nord avec ses excès. C'est la Chine avec la Russie et la Corée qui sont en train de créer un triangle pour tout simplement sortir toute influence économique occidentale. C'est la Chine de la pandémie, on n'en parle pas. C'est la Chine de l'espionnage. C'est la Chine de ces milliers de touristes qui promènent autour du monde pour venir copier les équipements qu'on a ici. Alors, si c'est ça que t'as inventé, Jean Charest, la Chine qui porte atteinte aussi aux droits de l'homme, si cher à M. Charest. Et M. Charest a coquifié, faut-il le dire, avec les libéraux de la famille, encore une fois, des Desmarais, eh bien, voit en sorte à étendre les tentacules de ce grand fabricant de pensée nouvelle, UAV, là, qui va se rendre à l'aide des libéraux de la famille Desmarais dans les foyers québécois et canadiens, c'est ça qu'on veut. Et en passant, une dernière question, quant à tremper que les libéraux, comme il a fait Jean Charest, est-ce qu'il n'y a pas déjà été un ministre bleu, conservateur? On est plein à renier. Un avocat, c'est ça. Tu m'offres plus, alors je passe au bas. C'est un peu ça, quoi, la morale?
C'est très bon. Et cela dit, Jean Charest, il y a toujours eu l'éthique un peu élastique, on peut dire?
Exactement. Il est sorti le grand héros du référendum. Il était pour les Bleus, le seul député bleu qui restait, justement, avec Jean Charest puis Daniel Johnson Jr., hein, au carré de Mignonne. Puis il était bon comme... dans les cadres, il est le meilleur. Ben oui, puis il jouait avec son passeport pour nous amoindrir et nous faire voler un référendum de 60 000 votes et en même temps de jamais réparer le problème constitutionnel une fois qu'il est devenu député du Québec, voué à la défense du Québec.
Puis il est drôle, c'est ça qu'il disait. Oh, en personne, il est tellement drôle.
Ah, Jean Charest, oui, puis Jean Chrétien aussi, très drôle. Hein. Il sacre avec nous autres, puis il est vulgaire, puis il est très, très drôle. Mais dès qu'il parle du Québec, l'écume lui sort de la bouche.
Bon week-end, Gilles. Ça parle lundi. Bye.